Bonjour à toutes et à tous, ou à tous et à toutes. C'est vraiment un honneur pour moi et une grande joie et un grand privilège de pouvoir être avec vous déjà, d'avoir pu partager ces moments bénis que nous venons de passer. Et merci à tout le groupe de louanges. Et vraiment, je suis honorée d'être ici, de pouvoir partager le message que Dieu a mis sur mon cœur. Alors, je voudrais bien sûr remercier mon pasteur, Rodrigue Sacramento, qui m'accorde sa confiance. Et je voudrais également remercier mon mari, mon époux, qui est ici aussi présent, et qui me soutient de tout son cœur dans l'exercice de ce service. Voilà, je voudrais juste prier très courtement pour mettre ces moments entre les mains de Dieu, si vous le voulez bien. Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ces moments privilégiés que nous passons avec toi. Merci parce que tu nous vois ce matin et nous voulons vraiment, oui, à visage découvert, Seigneur, nous présenter devant toi pour te rencontrer tout à nouveau. Je prie vraiment pour que nos cœurs soient ouverts à ton esprit, soient ouverts à ta parole et que tu puisses nous encourager encore ce matin, nous exhorter, nous avertir pour la gloire de ton nom. Jésus, vraiment, je remets ces moments entre tes mains. Conduis-moi. Amen. Alors, je voudrais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Pour ceux qui ont leur Bible ou leur téléphone. Donc Jean chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 3. Donc ça parle de Jésus. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Amen. Alors, c'est une très belle histoire, la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Mais avant de rentrer pleinement dans le vif de cette histoire et de ce sujet, je voudrais simplement déjà vous donner le titre de ce message qui est « Le puits de la rencontre ». Le puits de la rencontre, et faire simplement un petit rappel de ce qu'étaient et de ce que sont les puits dans la parole de Dieu, et notamment dans l'Ancien Testament. Les puits étaient un lieu de rencontre, d'affluence, c'est-à-dire à l'époque, ils n'avaient pas l'eau courante, donc les gens se rassemblaient à certaines heures de la journée, plutôt quand il faisait frais, parce qu'à cette époque-là, en Israël, il fait très chaud. Et d'ailleurs, il fait toujours très chaud en Israël. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, ici, il fait très chaud. Et donc, ça ne nous viendrait pas à l'idée de se dire en plein midi, tiens, je vais aller faire un footing, par exemple. Non. Alors, les puits étaient très fréquentés au moment, donc plutôt le matin et plutôt tard le soir. Et il y avait des troupeaux qui venaient s'abreuver. Il y avait tout un tas de personnes qui venaient puiser l'eau pour toutes les tâches ménagères. Mais c'est aussi un lieu de rencontre, d'histoire d'amour. En Genèse 24, Éliézer de Damas, le serviteur d'Abraham, a fait un long trajet pour venir chercher une femme pour Isaac. Et là, il va prier, il va dire « Seigneur, que la jeune femme qui s'approchera pour me donner à boire, mais qui donnera aussi à boire aux chameaux, soit celle que tu as prévue pour le fils de ton serviteur. » Et là, sur ces entrefaits, Rebecca arrive. Et là, elle donne à boire à Eliezer, mais aussi aux chameaux. Et Isaac et Rebecca vont se marier. Vous connaissez l'histoire. Genèse 29 également, on a Jacob et Rachel. Jacob aussi qui a fait un long trajet, qui arrive au puits. Et donc, il va rouler la pierre qui est un peu difficile, qui est un peu lourde. Et là, il y a Rachel qui arrive avec le troupeau de son père Laban. Et là, waouh, coup de foudre. Alors Rachel, c'est... La Bible dit qu'elle était belle de corps et de figure, donc elle devait vraiment être très très belle. Et là, Jacob a un coup de foudre, et donc vous connaissez l'histoire, il a dû travailler pendant 7 ans pour pouvoir se marier avec elle. Et la Bible dit que ses années furent des jours à ses yeux tant il l'aimait. C'est beau, hein? Et ensuite, il y a aussi Moïse et Séphora qui se sont rencontrés au puits. Moïse avait fui l'Égypte, il était arrivé dans le désert de Madian, et là, il avait certainement très soif, et donc il s'approche de ce puits. Et là, il y a 7 jeunes filles qui arrivent, et ce sont les filles du prêtre de Madian, et donc Moïse va les défendre, courageux Moïse, il va les sauver, et du coup, ben, pour remercier Moïse, Laban va donner... non, c'est pas Laban, excusez-moi, c'est Jéthro, ou Réuel, ça dépend, Jéthro va donner Séphora en mariage à Moïse. Donc ce sont de belles histoires, c'est très romantique. Est-ce que vous trouvez que c'est romantique? C'est romantique, hein, voilà. Et puis, dans la même lignée, nous avons Jean IV. Alors, Jean IV, c'est pas un mariage physique, mais c'est un mariage spirituel. C'est Jésus qui vient rencontrer la Samaritaine. Jésus vient rencontrer la Samaritaine alors qu'à l'époque, les Juifs et les Samaritains n'étaient pas tellement amis. Et pour situer un petit peu le passage, il dit que Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée parce qu'il devait traverser la Samarie. Et alors, pour vous situer un petit peu la carte, en bas, on a la Judée, en haut, on a la Galilée, et en plein milieu, on a la Samarie. Donc, effectivement, géographiquement parlant, il devait traverser la Samarie. Sauf que tout juif pieux de l'époque ne traversait jamais la Samarie. Et pour vous dire, il préférait faire un énorme détour en longeant le Jourdain pour rejoindre la Galilée. Donc, c'est-à-dire que Jésus brave les interdits, il brise les codes religieux pour pouvoir rencontrer cette femme. Parce que cette femme a soif de quelque chose. Cette femme a une mauvaise vie. La parole le dit ensuite, hein. On ne peut pas lire tout le passage, c'est long, mais la parole le dit ensuite que cette femme a eu 5 maris et que celui avec qui elle est actuellement n'est pas son mari. Et cette femme, elle vient puiser à midi. Il est dit que c'était environ midi et Jésus est là, il est fatigué. Et il a envoyé ses disciples aller chercher à manger au marché. Pourquoi ? Parce qu'il savait par avance que si ses disciples restaient, ils ne comprendraient pas pourquoi Jésus s'adressait à cette femme samaritaine. Donc il s'est libéré de toute contrainte, on peut dire, et il est là sur le puits, assis, et il attend. Et il attend cette femme, remplie d'amour, et il a quelques petites questions à lui poser, quelques petites choses à lui dire, comme lorsque Jésus nous a rencontrés. Qui a rencontré Jésus ici ? Alléluia. Et je voudrais qu'on chemine ensemble dans ce texte en nous rappelant comment Jésus est venu nous rencontrer. Hein, à l'image de cette rencontre avec la Samaritaine, qu'on puisse se rappeler comment Jésus est venu nous rencontrer. Vous savez, c'est hyper important dans la parole de Dieu, de l'Exode à l'Apocalypse, dans quasiment presque tous les livres, il y a le rappel de comment Dieu a libéré son peuple d'Égypte. Comment Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu que nous servons, a asséché la mer Rouge, il a fait des murs d'eau, et comment le peuple a traversé sur la terre sèche. Et c'est répété sans cesse, parce que c'est important de se souvenir d'où on vient. Alléluia. Et donc, il attend cette femme, il est midi, et normalement, à midi, au puits, il n'y a pas grand monde. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il fait très chaud. Mais il savait qu'elle allait venir. Et elle venait à midi parce que certainement que sa vie et tout ce qu'elle avait fait était un sujet de moquerie, un sujet de quand dira-t-on, un sujet de cancan. Et elle voulait certainement pas être la risée des autres femmes qui venaient puiser au puits aux heures fraîches de la journée. Et Jésus l'attend et elle arrive avec sa cruche. Et là, Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Et donc cette femme ne comprend pas comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Alors déjà les juifs à l'époque ne s'adressaient pas tellement aux femmes, encore moins aux samaritains, encore moins une femme de mauvaise vie. Donc ça faisait 3 bonnes raisons pour ne pas lui parler. Mais pourtant Jésus ouvre la bouche et il lui pose une question et il lui dit « Donne-moi à boire ». Et cette femme est très étonnée et il lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Waouh ! Et là, elle dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Elle se moque gentiment de lui. Et là, Jésus lui dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et cette eau deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia ! On a chanté... que ta vie coule comme un torrent. Voilà, c'est ce que Jésus veut faire expérimenter à la Samaritaine. Et dans notre rencontre avec Dieu, Dieu est venu nous chercher. Dieu est venu nous titiller parce qu'il voulait nous challenger. Et premièrement, il voulait d'abord nous montrer quel était notre véritable besoin. Lorsqu'il dit à la Samaritaine, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Nos besoins premiers ne sont pas des besoins naturels, ils ne sont pas des besoins physiques. Bien sûr, on doit manger, on doit boire, il n'y a pas de problème. Mais notre premier besoin, il est spirituel. Notre premier besoin, c'est de rencontrer notre Créateur. Alléluia. Et si vous, peut-être qui nous regardez, vous n'avez pas encore rencontré Jésus, je vous encourage vraiment à écouter cette parole, parce que c'est la Bible, c'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est esprit et vie, que ça puisse créer en vous le désir de rencontrer ce merveilleux Sauveur. Alléluia. Et ensuite, il va lui révéler son péché. Il va lui dire, alors écoute, va chercher ton mari. Aïe, ça va coincer, moi j'ai pas de mari. Mais elle est honnête la Samaritaine. Et il lui révèle effectivement tout ce qu'elle a fait, qu'elle a eu 5 maris, etc. Et pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Lorsque je suis venue vers Jésus, ma vie était chaotique, j'étais dépressive, je prenais des antidépresseurs le jour, des cachets pour dormir la nuit. J'avais 23 ans, pourtant, il semblait que j'avais tout pour être heureuse, mais il y avait un vide au fond de mon cœur, une profonde tristesse qui faisait que je n'arrivais pas à me débarrasser de ce fardeau, voyez. Et j'avais cherché l'amour au travers des relations amoureuses, au travers du sport, au travers de tas de choses, des amitiés, mais ça comblait pas ce vide qu'il y avait au fond de mon cœur. Et Jésus est venu me chercher dans ma misère, dans mon péché, alors que je ne le cherchais pas. J'ai grandi dans une famille athée, qui même levait le poing contre Dieu. Si Dieu existe, pourquoi autant de famines, de choses injustes dans le monde? Alors effectivement, on peut se poser la question. Je crois que toi, on a fait une excellente prédication aussi sur le sujet. Et du coup, je venais de ce background-là, donc c'était pas évident pour moi. Mais une amie un jour m'a conduit à l'église, voyant mon état, sans me le dire qu'elle m'a mis à l'église, parce qu'elle savait très bien que si elle me le disait, je n'y serais pas allée. Et du coup, me voilà dans l'église, j'entends parler de Jésus-Christ, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, ok, et puis j'entends dire que Jésus peut changer ma vie. Et ça, ça m'a parlé. J'ai dit, ok, ça me parle. Donc je me suis accrochée, j'ai continué d'aller à l'église. Mais il me manquait quelque chose, cette phase-là où Jésus lui dit, va chercher ton mari, elle lui dit, j'ai pas de mari. Et j'avais pas compris que je devais demander pardon. Parce que pour moi, ma vie, elle avait pas été terrible, elle avait pas été facile, et je vois pas pourquoi des petites choses, c'était important, quoi. Et un soir, je me suis quand même agenouillée sur le lit de ma mère, et j'ai prié. Et j'ai parlé à Dieu simplement, comme à un ami. Comme à un ami. Et petit à petit, le Saint-Esprit est venu. Et il a pris le relais. Et ma prière a changé. Et là, j'ai réalisé que, effectivement, même si j'avais souffert, j'avais fait des choses pas correctes dans ma vie. Que même si j'avais souffert, mon cœur était malade. Et plutôt que de m'accrocher à Jésus parce qu'il voulait changer ma vie, j'ai compris qu'il fallait que je m'accroche à Jésus parce qu'il voulait changer mon cœur. Alléluia. Et à partir du moment où notre cœur est changé, notre vie alors change. Alléluia. Et amen. Amen. Et donc cette discussion continue, puis ensuite la Samaritaine ne comprend pas, elle dit, mais Seigneur, nous, les Samaritains, on adore sur le mont Garizim, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Elle est un peu perdue et Jésus lui dit, écoute, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et là, Jésus parle de l'adoption, de la régénération. Le régime de la loi est terminé. Jésus est sur terre et il amène le régime de l'esprit pour que nous puissions vivre par l'esprit. Alléluia. Et je rajoute que nous puissions vivre par l'esprit et que l'esprit de Dieu vienne habiter en nous et qu'il nous régénère et que nous devenions des nouvelles créatures. C'est pour cela que nous avons besoin d'une nouvelle naissance, de naître de nouveau. Vous connaissez la conversation avec Nicodème. Donc c'est merveilleux. Et là, la Samaritaine, elle est touchée. Elle dit, ah mais le Messie doit venir. Il lui dit, je le suis, moi qui te parle. Elle lâche sa cruche, elle va au village. Elle qui avait honte de sortir, elle va dans le village et elle annonce, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie, celui qu'on appelle Christ. Et là, les gens commencent à croire. Alors que cette femme était peut-être délaissée, cette femme était moquée là par le témoignage de sa parole, parce qu'elle a vécu une rencontre personnelle avec Jésus, les gens croient et les gens se convertissent. Les Samaritains, hein. Alléluia, hein. Alléluia. Et donc, c'est merveilleux. Et c'est ce qui se passe quand on se convertit, quand on donne sa vie à Dieu, qu'on est né de nouveau, il y a quelque chose de formidable qui se passe quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, on a on sécrète des hormones. Il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine. mais on sécrète aussi des endorphines, ce qui fait qu'on est un peu dans un état second, vous voyez ? Je sais pas qui est amoureux ce matin, mais en tout cas... On est dans un état second, je parle des tout débuts, vous savez, on a envie de voir l'autre tout le temps, on est au téléphone, on n'a plus faim, on oublie de manger, vous voyez, c'est cet état-là, voilà, c'est ça. Et c'est pareil quand on rencontre Dieu, c'est pareil quand on rencontre Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe, un effet de nouveauté, le Saint-Esprit nous environne, nous sommes environnés de sa présence, tout ce qui est passé est derrière, et on voit, on perçoit l'avenir avec Dieu, on perçoit des choses nouvelles, et on est rempli vraiment de l'Esprit de Dieu, et il y a ces sources d'eau vive qui jaillissent, hein, ces sources d'eau vive jaillissent, c'est extraordinaire. Mais si je m'arrête là, j'oublie une partie. On était dans le grand 1, la rencontre. Le grand 2, la relation. C'est-à-dire que je ne serais pas tout à fait honnête si je ne parlais pas de la suite. Que s'est-il passé chez Isaac et Rebecca ? Isaac préférait son fils Ésaü parce qu'il lui préparait bien à manger. Rebecca préférait Jacob. Et Rebecca, la maman, a aidé son fils à escroquer son frère. Ça a créé un conflit monumental. Finalement, Jacob a dû partir. Bon, c'est beaucoup moins romantique déjà. Que dire de Jacob et Rachel ? Vous connaissez l'histoire. Au bout de 7 ans, finalement, Laban va escroquer aussi Jacob. L'escroqueur escroqué. Et il va lui donner Léa. Et puis il va retravailler 7 ans pour avoir Rachel, et puis finalement il va avoir Rachel, mais les deux femmes vont se jalouser, il y en a une qui peut avoir des enfants, l'autre qui ne peut pas, bref, ça devient un bazar monumental, et franchement, très honnêtement, les enfants en subissent les conséquences. Et puis Moïse de Séphora aussi, ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose, il y a eu un petit conflit par rapport à la circoncision, et voilà, il y a eu un moment où ça a été compliqué entre eux, mais voilà, c'est tout simplement pour dire que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. On voudrait, ça serait super, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et si je peux faire un parallèle avec notre relation avec Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on se convertit, hein, il y a cette fougue du début dont on a parlé il y a quelques instants, et puis petit à petit, on s'installe dans la relation. Après la rencontre, il y a la relation. On s'installe dans cette relation et on a l'impression que l'eau vive qui jaillissait tarit petit à petit. Et parfois même, on traverse un désert. Et là, on se pose et on dit « Seigneur, t'es où en fait ? T'es où Jésus ?» C'est pas comme ça que je voyais les choses. Et on a une sorte de désillusion, une sorte de déception, qui fait que c'est difficile. Ça devient difficile de prier. Des fois, on n'a même plus envie de prier, soyons honnêtes. On n'a même plus envie de lire la parole de Dieu, on n'est même plus attiré par les choses de l'esprit, parce que la vie a repris son cours, l'effet des hormones a baissé, et on redevient, entre guillemets, excusez-moi, normaux. Hein. Et là, moi, en tout cas, je suis passée par ce désert-là, et ça a été très difficile, ça a été très difficile. Et je me suis posée à un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai dit « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Franchement, c'est difficile. » Et j'ai compris quelque chose, et je pense, et j'espère vous éclairer ce matin, si vous traversez aussi cette période, il y aurait 2 facteurs liés à ce phénomène. Le premier, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Parce que, lorsque nous venons à Jésus, effectivement, Jésus nous délivre, Jésus nous libère, Jésus nous guérit de beaucoup de choses. Mais il y a des choses encore en nous que nous devons travailler. Il y a des choses encore qui doivent être guéries, il y a des choses encore qui doivent être libérées en nous. Mais ça, on ne le sentait pas au tout début. Et toutes, peut-être certaines blessures ressurgissent. Et on peut être même déçu de certaines personnes. Et on peut même être déçu de Dieu des fois, parce qu'on ne comprend pas. Lorsque nous sommes déçus de Dieu, c'est lorsque nous ne comprenons pas pourquoi. Pourquoi il se passe ça ? Pourquoi il se passe telle ou telle chose ? Et alors, tous ces éléments viennent troubler, hein, viennent obscurcir notre relation avec Dieu et viennent aussi entacher l'image que nous avions de Dieu au départ. un Dieu présent, un Dieu constamment à mes côtés, un Dieu qui agit, qui répond à toutes mes prières. Et là, on a l'impression des fois que la prière, elle dépasse pas le plafond. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, c'est nous-mêmes. Et c'est humain. Et c'est normal. Et le deuxième facteur, selon moi, c'est Dieu lui-même. Pas que Dieu fasse des choses mauvaises pour nous, mais c'est sa pédagogie. Sa pédagogie qui est la pédagogie des parents avec un enfant. Le petit vient de naître, le bébé vient de naître, on est constamment avec lui. On est là, H24, on prend soin de lui, le bibi, ou les femmes qui allaitent, on change les couches, c'est un travail constant. Bon, les mamans sauront de quoi je parle. Les papas aussi, hein, mais c'est différent. Bon, les papas, vous n'allaitez pas. Et du coup, petit à petit, les parents, ensemble, rendent l'enfant de plus en plus autonome. C'est-à-dire qu'il va devoir se débrouiller tout seul s'il veut être quelqu'un de responsable. Et Dieu fait la même chose avec nous. C'est-à-dire qu'au début, il nous entoure, il nous chouchoute, il nous cajole. Et puis à un moment donné, il nous dit, faut que tu apprennes à marcher tout seul. Faut que tu apprennes à marcher toute seule, Émilie. Parce que je vais pas tout le temps être là. Pas que Dieu s'éloigne. Dieu est toujours, comme je disais, dans un coin de la pièce. Il nous regarde, il nous observe. Mais il veut qu'on apprenne à marcher par nous-mêmes et à marcher par l'Esprit. Et ce qu'il veut, c'est que nous devenions semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et Jésus a souffert. Et nous qui sommes sauvés par grâce, pourquoi nous ne devrions pas souffrir? Jésus lui-même a souffert. La Bible dit que il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors si Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, à plus forte raison, nous qui sommes pécheurs et sauvés par grâce, parfois et souvent, c'est comme ça, nous apprenons dans la difficulté, dans le désert, dans la douleur, dans l'épreuve. J'entends pas d'amen là. Alors, simplement, je voudrais nous donner deux pistes avant de clôturer ce message. Est-ce que vous me permettez de vous donner deux pistes? Je vois que le temps passe, mais voilà, c'est vraiment important. La première piste, c'est simplement de rencontrer Jésus à nouveau. Rencontrer Jésus à nouveau au puits de Jacob. Mais rencontrer Jésus, Rodrigue l'a dit tout à l'heure, et je te remercie vraiment, je rebondis dessus. Il a dit, le Saint-Esprit lui a dit, je ne suis pas pressé. Et nous, parfois, on est très souvent pressé. Et pour rencontrer Jésus à nouveau, il ne faut pas être pressé. Jésus était là au puits de Jacob, il attendait la Samaritaine. Jésus n'était pas pressé. Il attendait qu'elle arrive avec sa cruche. Et nous devons prendre du temps. Le temps, comme l'a dit Rodrigue, c'est un don de Dieu. Et nous devons prendre ce temps pour rencontrer Jésus à nouveau, sinon il ne se passera rien dans notre vie. Il ne se passera rien dans notre vie. Et je voudrais juste vous dire, je pense vraiment que Jésus veut nous tester sur trois points. Lorsque nous déciderons de le rencontrer à nouveau, je pense qu'il va nous tester sur trois points. Et c'est le même modèle que Jean 4. Premièrement, il va tester notre soif. Est-ce que tu as vraiment soif de me rencontrer à nouveau? Est-ce que tu as vraiment soif? Parce que si tu as vraiment soif, tu vas prendre du temps en fait. Jésus a dit en Jean 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, comme le dit l'Écriture. Notre soif. Mon mari dit souvent, il y a une prière que Dieu exauce toujours. Écoutez bien. C'est quand je demande à Dieu de me donner soif de lui. Donc déjà, premièrement, si on n'a pas soif, et moi je me suis trouvée dans ce cas, j'ai dit Seigneur, oui, effectivement, non, j'ai plus soif de toi comme avant. Alors justement, prions pour que Dieu nous donne soif de lui, et soif de dégager du temps pour lui, parce que lui, il a pris du temps pour nous, et il prend du temps pour nous, il veut passer du temps avec nous, c'est un Dieu de relation, ne l'oublions pas. Et le deuxième point sur lequel Jésus veut nous checker un petit peu, c'est notre honnêteté. Notre honnêteté envers nous-mêmes, notre honnêteté envers les autres, et notre honnêteté, bien sûr, envers Dieu, envers lui-même. Et si on n'est pas honnête envers soi-même, on ne peut pas être honnête avec Dieu. Vous comprenez ce que je dis ? C'est-à-dire, à un moment donné, « Seigneur, je traverse un désert, je ne sens plus ta présence, t'es où ?» Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui m'a éloigné de toi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être des blessures, des déceptions, ou même un péché, ou des péchés. Ça, c'est possible aussi. Et notre honnêteté, c'est simplement de reconnaître déjà notre état, mais aussi de ne pas se cacher derrière de fausses excuses. Je m'entends, et ça, je peux vous dire que j'ai été une reine en la matière, de la victimisation. La victimisation. Jean, chapitre 5, vous connaissez cette histoire, l'infirme de Bethesda, la piscine de Bethesda. Alors, la piscine de Bethesda, c'était un endroit où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de malades, d'infirmes, des maladies certainement incurables, et c'était vraiment comme un hôpital, quoi, vraiment, avec des maladies graves. Et Jésus rentre dans ce lieu, et donc, vous imaginez l'embarras du choix, hein, et là, il s'attarde sur cet homme, et il sait qu'il souffre depuis longtemps, et il s'approche de lui. Et Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Je dis, « Jésus, pourquoi tu lui poses la question ? En fait, ça fait 38 ans qu'il est allongé, qu'il ne marche pas, qu'il est sur son lit. Je ne sais même pas comment il va aux toilettes. Enfin, vous voyez, c'est compliqué quand même. Mais pourquoi Jésus lui demande ?» Mais on a la réponse en entendant la réponse du paralytique. « Ouais, Seigneur, tu comprends, il y a personne en fait pour m'amener dans l'eau, et quand je me déplace pour y aller, eh ben, quand j'arrive, il y a déjà quelqu'un dedans. » Ok. Jésus, dans sa grâce et dans son humour, et dans son amour, va lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et cet homme va être guéri instantanément. 38 ans de paralysie. Amen. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est un Dieu de miracles. Et plus tard, il va le recroiser dans le temple et il va lui dire « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Donc certainement, sa maladie était liée à un péché. Et cet homme-là, quand Jésus lui a dit « Veux-tu être guéri ?» il aurait pu dire « Oui, Seigneur, je vais être guéri, pardonne mes péchés, pardonne-moi. » Mais non, il a « Oui, mais tu comprends, il n'y a personne pour mettre dans l'eau. » Parce que c'est facile de voir tout ce qui ne va pas autour, de voir qu'il y a des gens qui ne nous aident pas. Mais par contre, regarder au fond de son cœur, c'est plus compliqué. Amen. Donc Jésus veut tester aussi notre honnêteté. Et troisième point que Jésus veut tester, c'est notre adoration ou notre marche par l'esprit. Pour moi, c'est très lié. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et je voudrais vous lire un verset, c'est vraiment important, dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 nous dit, au verset 8, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ok. « Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. J'aime énormément, énormément ces trois versets. Et alors, c'est intéressant de voir qu'il y a deux fois le mot œuvre dans ce passage. Il y a « ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés » et il y a aussi « car Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions ». Et le verbe « pratiquer », là, ici, en grec, c'est le verbe « peripatéo ». Et ce n'est pas le verbe « faire » ni « pratiquer », c'est le verbe « peripatéo » qui signifie « marcher ». Marcher. Donc, littéralement, on pourrait traduire « car Dieu a de bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions dedans ». Alors, ce n'est pas très beau, je vous l'accorde, c'est certainement pour ça que ça a été traduit de cette manière. Mais afin que nous marchions dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et comment marcher dans ces œuvres ? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Si nous sommes de véritables adorateurs, nous marchons par l'Esprit de Dieu. Et nous appuyons sur la vérité. Par l'Esprit. Et j'en viens à ce que je voulais dire. Lorsque notre feu s'éteint, lorsque cette eau tarit, quelquefois, on peut retomber dans les œuvres charnelles. Le premier mot, là, les premières œuvres. Pourquoi ? Parce qu'on veut malgré tout plaire à Dieu. On aime Dieu. Ce n'est pas parce que notre feu s'est affaibli, ce n'est pas parce que notre eau a tari que nous n'aimons pas Dieu. Non, nous aimons Dieu. Nous traversons des difficultés, des épreuves, mais nous aimons toujours Dieu. Et nous voulons lui plaire parce que nous l'aimons. Mais parfois, nous retombons dans ses œuvres charnelles. Nous tombons dans ses œuvres charnelles. Et c'est une forme un peu de religiosité, comprenez ? Alors que Dieu, il en a préparé des bonnes œuvres, de bonnes œuvres, afin que nous marchions dedans, marchions par l'Esprit. Alléluia. Et oui, je voudrais terminer maintenant avec un dernier passage dans Genèse 26. Donc, Jésus veut checker notre soif, notre honnêteté, notre adoration, notre marche par l'Esprit. Si nous venons, que nous prenons du temps pour lui et que nous l'attendons au puits de Jacob, il veut nous rencontrer à nouveau pour que ses eaux vives jaillissent à nouveau. Il y a des gens qui meurent à l'extérieur. Il y a des gens malheureux, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais il y a des gens qui cherchent Dieu aussi. Alors oui, dans des choses fausses, mais nous devons être la lumière au milieu des ténèbres. Nous devons briller au milieu de ces personnes et leur témoigner l'amour de Dieu. Alors, je lis avec vous et puis après je conclurai. Donc, c'est Genèse 26, à partir du verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Puis les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits Ézek parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Réoboth car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit « Je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur car je suis avec toi. » Amen. Alors c'est un peu long, je vous l'accorde, mais c'est vraiment très intéressant. Premièrement, Isaac recreuse les trous que son père avait creusés. Okay, et il leur donne le même nom. Bon, jusque-là tout va bien. Il ne se passe rien de spécial. Et puis ensuite, Isaac envoie ses serviteurs creuser des trous, des puits, hein, c'est clairement le mot puits. Et donc, premièrement, ses serviteurs creusent un puits, puis il y a des querelles, donc ça ne marche pas. Et puis, il retourne les serviteurs creuser un deuxième puits, et il y a encore querelle. Et de là, écoutez bien, il est dit, il partit de là et creusa un autre puits. Et là, il s'agit d'Isaac, c'est-à-dire, il a recreusé les trous les puits de son père, il a envoyé ses serviteurs creuser des trous, des puits, j'ai un problème, je ne dis pas des trous, des puits, et ensuite, il comprend que peut-être il doit creuser son propre puits. Et il part de là. Et il va creuser son propre puits. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il remonta de là à Beersheba. Donc il l'appelle Réoboth parce que là, il n'y a pas de querelle. Enfin, il a creusé son propre puits. Il n'y a pas de querelle. Il l'appelle Réoboth. Il remonte à Beersheba. Et l'Éternel lui apparut dans la nuit. Et il rencontre Dieu. Parce que ce n'était pas sur la foi de son père qu'il devait s'appuyer. C'était pas sur la foi des chrétiens de l'église, des pasteurs, des leaders. C'était sur sa propre foi qu'il devait s'appuyer. Il devait creuser son propre puits pour aller chercher sa propre source d'eau vive. Et à partir du moment où il a compris, l'Éternel l'a rencontré. Alors peut-être que Jésus va te rencontrer à nouveau au puits de Jacob, si tu prends du temps pour lui, il va checker ces trois points qu'on a vus ensemble. Mais peut-être qu'à un moment donné, dans ta marche, Dieu va te demander de creuser ton propre puits. Et creuser, en hébreu, c'est le mot « shafar », qui veut dire « chercher ». Ça veut dire « chercher », creuser, chercher, chercher Dieu. Et je termine avec le verset préféré de mon mari, Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Est-ce que vous voulez rencontrer Jésus à nouveau ce matin ? Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois qu'on peut le remercier et prier. On peut remercier Dieu et prier, vraiment. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu d'amour. Et c'est vrai, nous voulons te chercher, mais nous voulons aussi prendre conscience que toi, tu nous cherches. Tu nous cherches sans arrêt. Tu ne finis jamais de nous chercher. Et ton amour pour nous ne tarit jamais. Même si nous, notre eau vive, elle peut tarir, même si notre feu, il peut diminuer, toi, Jésus, tu es la source d'eau vive et ton amour ne tarit jamais. Tu ne nous abandonnes pas. Amen. Tu ne nous laisses pas, Seigneur. Et ce matin, tu nous encourages à revenir près de toi, à revenir te rencontrer au puits de Jacob, à creuser notre propre puits, afin que les sources d'eau vive jaillissent à nouveau et que vraiment les déserts se transforment en araba, comme le dit la parole, que les déserts se transforment en fleuves de vie. Et merci pour l'épreuve, merci pour le désert, merci pour les difficultés, parce que c'est dans ces moments-là que nous apprenons à mieux te connaître, c'est dans ces moments que nous apprenons à nous rapprocher de toi. Et ce matin, nous voulons simplement te rendre grâce et te dire merci pour ta parole, merci pour la vie éternelle, parce que nous sommes sauvés, nous t'appartenons, nous sommes tes enfants, nous avons été régénérés et nous sommes pardonnés. Merci parce que tu as payé le prix à la croix de Golgotha. Et nous te rendons grâce pour le sang qui a coulé de la croix. Et nous voulons vraiment qu'une onction de joie et une huile de joie coulent sur nous. Parce que nous t'appartenons et que nous sommes tes enfants. Alléluia. Merci Seigneur.